Bonjour à tous et à toutes, je suis Raphaël, je suis le R de Girafe et j'ai un plaisir tout particulier aujourd'hui. Je reçois Stan Sobczyk. Alors Stan Sobczyk, c'est une figure emblématique à Vraise. Beaucoup d'entre nous le connaissons. On connaît Sport Maximum, on connaît très largement l'ensemble des produits qu'il nous propose. On connaît un peu moins l'homme, donc on va essayer de passer quelques temps dans la vie d'un entrepreneur, d'un sportif de haut niveau. Stan, c'est avec un grand plaisir que je te reçois. J'ai eu un petit problème quand j'ai décidé de faire cette interview avec toi, c'était de savoir comment j'allais faire tenir tout ça dans 40 minutes d'interview. Mais écoute, on va essayer de se prêter à l'exercice. Bonjour Stan.
Bonjour.
Alors Stan, tu t'es prêté à l'exercice, je suis vachement sensible, on se connaît bien, en préparant l'émission, on a pas mal discuté. Donc le but de cette interview, qui est plutôt une conversation d'ailleurs, c'est d'échanger, de savoir un peu qui est Stan, quel a été son parcours, à la fois son parcours d'entrepreneur, mais aussi son parcours de sportif de haut niveau. Et je pense qu'on a plein d'anecdotes, on va essayer de les limiter. Donc voilà, ma première question, alors, c'est qui Stan ?
Ah, c'est difficile, même moi j'ai du mal à répondre à la question.
Bon.
Stan est tellement imprévisible.
Multifacette.
Voilà, tout à fait. Certainement le contraire de quelqu'un qui a une route tracée.
Ah bah alors c'est intéressant, là on va pouvoir commencer à essayer de faire la route avec toi pendant cette conversation. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de dire comment est-ce que tu es arrivé à avoir ton chemin d'entrepreneur ? Comment tu as intégré le sport aussi dans ce parcours ? Donc moi, en discutant et en préparant, on va arriver à Stan 73 qui découvre la planche. Tu vas nous parler un peu de ça. Et puis on va parler de Stan l'entrepreneur, Sport Maximum, sa naissance en 79. Et puis après, tout ce qui s'en est suivi avec quelques anecdotes. Donc on va commencer par le côté sportif. Donc 73, tu découvres la planche. Comment ça s'est fait ?
En fait, la planche à voile, c'est faite au travers du surf. Un ami et moi, à Biarritz tous les ans, passer 15 jours, c'était le début du surf en Europe. Et un jour, à la Chambre d'Amour, qui est un haut lieu du surf dans la région, nous voyons un individu sur une espèce de grande planche de surf avec une voile.
Et là, c'était complètement novateur.
C'était un jour où il n'y avait pas beaucoup de vagues, il y avait une toute petite brisette. Et rapidement, on en a déduit que l'engin était intéressant dans la mesure où nous, au Havre, on ne pouvait pas considérer avoir des vagues comme on les imaginait à l'époque pour surfer. Et par contre, la brise et le vent étaient souvent nos partenaires.
On n'en manque pas chez nous. Ouais.
Voilà. Et l'engin nous semblait tout à fait adapté.
Et ça n'existait pas ? C'est-à-dire que le windsurfing, enfin le windsurf, n'était pas du tout développé ?
Tout à fait. Et donc, en rentrant au Havre, nous nous mettons en quête de l'engin. Nous finissons par convaincre un magasin de l'époque, Manche Yachting, de nous faire venir les engins. Et comme j'ai une particularité, j'ai horreur de lire les notices. Je me suis retrouvé
dans ton côté trouve-tout et géo-trouve-tout. Ouais.
Un samedi après-midi, à marée basse, le long de la digue, une belle journée d'été, à chercher, à monter d'abord tous les accessoires, et puis ensuite, chercher à chevaucher l'engin.
Qui était un prototype, finalement, une sorte de prototype, ou
c'était
déjà commercialisé ?
Non, c'était la première windsurfer fabriquée en Hollande. Et donc, après avoir tout monté, c'était très difficile. Je m'évertuais à lever le gréement depuis l'eau, en étant dans l'eau jusqu'à la ceinture. Et une fois que le gréement est élevé, chercher à monter sur la planche. Je pense que Vidéogag n'est vraiment pas le niveau de ce qui s'est passé cet après-midi-là. Et bref, au bout de plusieurs heures de palabres, en tombant, je me suis retrouvé avec ce qu'on appelle le tire-veille, qui, lorsqu'il est au repos, est le long du mât. Et j'avoue que je ne m'étais même pas posé la question de savoir à quoi ça pouvait servir. Suggérait-il que je me suis retrouvé avec le tire-veille dans la main, qui s'est écarté du mât, et d'un seul coup, je me suis dit, ben, ça y est, ça sert, voilà, ça sert de levier pour pouvoir relever le gréement lorsqu'on est sur la planche. Et donc, ma méthode du départ était complètement erronée.
Bah d'ailleurs, on va le voir, parce que ça a un peu ponctué tout ton parcours. Tu me disais que tu étais dans l'empirique.
Ah bah, complètement.
Toi, tu fais et t'apprends. Donc, ce qui explique que tu n'aies pas lu la notice, tu aurais peut-être gagné un peu de temps, d'ailleurs.
Ah ben, souvent, on gagne du temps à lire les notices. Hein. Depuis, j'en ai fait moult fois l'expérience, mais je continue à ne pas lire les notices et à essayer avant.
Donc là, donc tu te retrouves avec cette planche, donc on est en 73-74, et là, donc tu as le sens de la glisse quand même, tu avais le surf pour toi. Et là, tu te dis, ça y est, j'ai trouvé une passion, enfin, en tout cas sportivement parlant, c'était
les premiers bords, lorsqu'on glisse sur l'eau, bien sûr, à l'époque, on ne déjaugeait pas, c'était une sorte de bateau avec une voile. Et malgré tout, c'était une façon de s'approprier l'espace marin.
De façon légère et rapide.
Et là, tout l'intérêt était là, quoi. On se retrouvait avec son petit bateau sur le toit de la voiture. Et très vite, d'ailleurs, comme une traînée de poudre, tout ça a suivi sur le marché. Tout le monde s'est trouvé fantastique.
Donc c'était un vent de liberté, quoi. C'était facile.
Exactement.
Donc tu as dû créer un peu la surprise, parce que j'imagine que sur la plage Avraise, quand on a vu les premières, vous étiez une petite bande, j'imagine, de copains.
Non, nous étions deux.
C'est déjà une bande. Et donc, du coup, vous avez initié tout ça, et là, tout est parti, et tu t'es dit, mais ça, c'est vraiment le sport, c'est mon sport.
Ouais, je crois qu'on se pose même pas la question. On est transcendé.
Ah, t'étais happé par. C'était une révélation.
Ah, c'était des sensations extraordinaires. Vraiment, c'était inimaginable, quoi, pour l'époque. Ça a été brutal. D'un seul coup, on passe de quelqu'un qui a un bateau, quelque chose de lourd, qui est une grosse organisation, à un bateau ultra léger qui permet d'aller naviguer où on veut.
On veut quand on veut.
Voilà.
Donc ça, c'est 73. Donc ça, c'est ta découverte avec le windsurfing. Parallèlement, on en a un peu parlé. Donc tu travailles.
Mais je voudrais signaler qu'avant nous, il y a quand même eu une famille d'illuminés qui a travaillé sur un projet qui ne s'est pas appelé planche à voile parce que, disons que le brevet de la planche à voile, c'est avant tout le cardan qui relie le gréement au flotteur.
D'accord.
Et nous avions au Havre la famille Allais,
ouais,
qui était pareil, une famille de trouve-tout, qui a inventé le squale.
Alors, ça, j'ai jamais entendu
parler. Le squale, ça ressemble. C'est un flotteur sur lequel on posait un gréement en forme de triangle.
Ouais.
Et on prenait le gréement et on le mettait de l'autre côté quand on voulait changer d'amure.
Bah, finalement, on le retrouve un peu avec ce qui se passe en ce moment. C'est quand
même. Tout à fait. Et d'ailleurs, la forme de la planche était relativement similaire,
ouais,
à ce qu'on a maintenant avec le wingfoil.
Oui. Mais les deux n'étaient pas reliés.
Les deux n'étaient pas reliés.
Ah oui, donc finalement, la naissance du windsurfing, c'est bien d'amarrer, hein, enfin de mettre un gréement sur une planche.
Le brevet, c'est l'articulation.
D'accord, c'est ce fameux pied de mât.
Enfin, tout à fait. Le silant, enfin, on appelle silant de bloc parce qu'on a utilisé longtemps les silants de bloc automobiles pour ça. Mais vraiment, le brevet est là-dessus.
Et c'était une famille avraise qui avait déposé ça?
Non, oui. C'est...
La famille Allais.
Non, la famille Allais, elle n'a pas déposé le brevet. Ah, eux, ils ont travaillé sur un truc. Ils sont passés juste à côté de l'invention de la planche à voile.
Ah ouais, et eux, ce n'étaient pas des Havrais. Pour la famille Allais, c'était des gens qui n'étaient pas d'ici.
Ah si, les Allais, oui.
Ah oui, d'accord. Donc, on est vraiment une terre... Non, mais c'est intéressant. On est une terre d'innovation.
Ah oui, tout à fait, oui.
Maritime et autres.
Tout à fait.
Donc, eux sont passés à côté de ça. Donc, toi, finalement, tu te prends de passion de tout ça. En parallèle de ça, tu n'es pas encore entrepreneur complètement. Tu l'es par nature parce que c'est ton ADN. Mais tu travailles dans une entreprise. On arrive là, 73-74. On arrive en 78. Tu es à la croisée des chemins de ce que tu m'as raconté.
Voilà.
Et là, tu te dis, bon, là, je suis un entrepreneur. Ou je reste là où je suis et je continue ma carrière comme ça et je laisse la planche comme étant une passion, un hobby. Ou là, je décide, et je crois que tu as été aidé... pourras peut-être nous en parler et apprendre ta décision.
Oui, tout à fait.
Et là, tu te lances et tu restes par maximum, on est en 1979.
Exactement.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Là, ce qui s'est passé...
Qu'est-ce qu'à 30 ans, on décide de se dire, bon, j'ai femme, enfant, on est quand même une période où on se dit, bon, comment t'as basculé ?
C'est un petit peu... Parce que là, l'entreprise dans laquelle j'étais fonctionnait très bien, je me suis bien épanoui, mais bref, on était trop dans l'affaire, en gros... pour rester, donc on m'a aidé dans mon choix en me disant que la jeunesse, c'est très important, c'est une valeur importante. Si tu as envie de faire ça, tu y vas maintenant, il n'y a pas de temps à perdre.
Oui, parce qu'après, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas remettre à demain ce qu'on veut faire le jour même.
Voilà, et là j'ai eu une aide morale considérable. C'est que j'ai eu la chance d'avoir un beau-père... Enfin, des beaux-parents, mais là, pour le cas, c'était un beau-père. Je me suis retrouvé chez le banquier avec mon beau-père, qui m'avait proposé de m'aider. Je lui avais dit que je souhaitais faire les choses tout seul. Malgré tout, j'avais besoin d'un aval, ce qui est énorme. Et nous voilà chez le banquier, et à trois, devant une table... Le banquier, gentiment, était terre à terre, s'est adressé à mon beau-père en lui disant
« Écoutez,
j'espère que vous vous rendez bien compte que le projet de votre gendre ne fonctionnera jamais. » Ça a été clair, je m'en souviens comme si c'était hier.
Non, ça a aiguisé ce que t'aimes bien. C'est-à-dire, voilà. Plus on te dit que c'est pas possible et plus...
Tout à fait, aussi. Et mon beau-père a eu des paroles merveilleuses. Il a simplement répondu au banquier « Oui, mais vous voyez, monsieur,
oui, peu importe.
Mon gendre, j'y crois.
Ah, »
Et ça...
Ça a résonné.
Sincèrement, les 10-15 premières années de Sport Maximum, je n'ai pédalé que pour ne jamais le décevoir.
Voilà, c'est un sujet dont on a un peu parlé et c'est assez intéressant sur la confiance en soi. On en discutait tout à l'heure, c'est un élément fondateur. On sait bien que la confiance en soi, elle revêt de multiples aspects. Ça vient souvent de la jeunesse, de sa jeunesse. Et c'est intéressant de voir aussi que dans ces moments d'entrepreneur, quand on décide de se lancer, la confiance en soi, c'est un élément déterminant. Parce que c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Si on a la confiance en soi et qu'on a la confiance des autres, c'est quand même un élément démultiplicateur.
Dans mon cas, il est indispensable.
Donc Sport Maximum, finalement, c'est grâce un peu à ton beau-père qu'on a la chance d'avoir un fleuron de nautisme au Havre.
Tout à fait, ouais.
Alors ça, donc, c'est 79. Parallèlement à ça, donc, là, tu te dis, c'est ma passion, je me lance. Tu crées l'enseigne, tu prends les locaux qui sont d'ailleurs, c'était toujours les mêmes locaux. T'as pas changé de locaux ?
Non, Sport Maximum a commencé place du Général de Gaulle, c'est la place du Monument aux Morts.
Ouais.
À l'époque où Némeyer n'existait pas, c'était un terrain vague, un parking. Et un premier choix qui a été judicieux, parce que personne n'en voulait, donc ça ne coûtait pas grand-chose.
Ouais.
Et je suis parti du principe que, comme c'est dans l'ombre, si on l'éclaire, on va voir que ça. Je ne me suis pas trompé. Bon, j'ai mis un peu les moyens sur l'éclairage de la façade. Mmh. Et en fait, quand on rentrait au Havre en longeant...
la rue de Paris ou... Non, le quai Georges V.
Le quai Georges V, quand on regardait le Monument aux Morts, on ne voyait que Sport Maximum. Mais pour se faire connaître, c'est énorme, parce qu'il y a du recul et c'est vraiment très, très en vue.
Ouais. Et donc, tu crées, donc là, t'as l'enseigne, t'as le lieu, t'es visible. L'idée de Sport Maximum, c'était à la fois de pouvoir développer toute la notoriété du sport, parce que c'est naissant, on va dire que c'est à 5-6 ans.
Bien sûr.
Oui. Et c'était à la fois de faire du matériel, du shaping, on en a parlé un peu. C'était quoi l'idée de départ ? C'était de dire...
L'idée de départ, c'est une idée de passionné, c'est simplement...
Je vais essayer de faire
exploser... Je vais structurer l'idée au fur et à mesure.
D'accord. Donc là, tu vends des planches ? C'est quoi
Je vends du matériel nautique. Des planches à voile, des t-shirts, des shorts de bain, et puis du skate...
Ah, déjà à l'époque, oui, c'est ça.
Voilà, du skate. Et puis, visiblement, je ne bouclais pas la boucle. C'est-à-dire, l'hiver, c'était difficile. Et je me suis dit que peut-être la plongée pouvait être un complément judicieux. On est dans le même élément. Ouais. Et c'est toujours pareil. C'est une question de relationnel avec les gens concernés. Quand je parlais de plongée, on me parlait toujours d'un Willy. Willy par-ci, Willy par-là. C'était une sorte d'éminence grise. Et j'ai cherché à le rencontrer, ce brave homme, qui travaillait en fait pour une société qui bossait pour le port. On s'est rencontrés façon les bas-fonds new-yorkais ou Chicago, dans un hangar sur le port. Et il m'a dit, moi, ça m'intéresse parce que, on n'a pas l'offre que l'on souhaite au niveau des clubs. Si vous montez un rayon plongé, je vous aide à le monter. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Ça a été le début d'une aventure humaine, une fois de plus, exceptionnelle.
D'ailleurs, ça a ponctué tout. Enfin, on va voir un peu sur le côté sportif.
Tout à fait. Toujours été
ponctué de ça. On sait d'ailleurs que les aventures entrepreneuriales sont souvent liées aux aventures humaines.
Tout à fait.
Donc là, tu le rencontres, donc tu élargis finalement.
J'élargis.
Tu mets ta passion au service de...
Ça se passe très bien.
Ouais.
Ça se passe très bien, et puis ça a duré 2 ans, et au bout de 2 ans, ce brave William vient me voir, il me dit, tu sais Stan, je suis en train de perdre mon travail, machin. Je dis, moi j'ai pas les moyens de supporter un salaire conséquent sur le chien. Il me dit, il y a une entreprise du Havre qui m'a proposé, que je connaissais, Julien Tanguy.
Ouais.
Je lui ai dit, moi je connais bien Julien, je vais l'appeler. Donc j'ai présenté William en lui disant, c'est l'homme de la situation, ouais. Il est ancien plongeur des mineurs, instructeur, ses clients c'est la DCN de Cherbourg, les pompiers de Lyon, c'est un gros faiseur. Et il faut que tu le prennes, c'est vraiment un gars bien. J'ai dit, moi tu me rachètes mon... moi, j'appelle ça fonctionner à l'ancienne. Ouais. Tu me rachètes mon stock. Moi, je fais suivre les clients parce que je n'ai pas les moyens de le faire. Et puis, c'est ce qui s'est passé. C'est une très belle histoire. Finalement, Sport Maximum s'est développé.
Il a pris sa route, tu as repris la tienne. Mais,
exactement.
Vous avez fait du co-développement. Quoi.
Exactement. Entre-temps, j'ai déménagé.
Et là, c'est là où tu arrives Résidence de France.
J'arrive Résidence de France. Et au bout de 2 ans, le William revient sur le marché en me disant, tu sais Stan, je suis en train de perdre mon travail, Julien a fait des mauvaises affaires en Afrique. Je dis, William, bienvenue à bord, je t'accueille, à l'ancienne, je te laisse un rayon pour que tu
développes ton activité.
Ça te permettra d'aller à l'extérieur. Moi, de vendre des palmes, masses, tubas, tout ça, je sais le faire. Je l'ai déjà fait. Ça te permettra d'avoir de la liberté. Et puis, si ça fonctionne, tu me devras... On s'est mis d'accord. Si ça ne fonctionne pas, tu ne me dois rien.
C'est bien. Ça se perd, mais c'est souvent les meilleures façons. C'est les plus claires.
C'est fantastique. Et au bout de 2 années, il a commencé à bien se développer. Il a monté un club au Cap-Vert. Il a ouvert le Cap-Vert vraiment d'une façon conséquente. Il a fait un très gros club de plongée. Il a monté un magasin au Havre qui a fonctionné très bien. Bref, on s'est entendu comme larron en foire. C'était très complémentaire. Mais pour moi, ça fait partie de la planche à voile. Parce que ça nous a permis d'équilibrer nos budgets, nos dépenses et tout. Et c'est une coopération positive.
Oui, parce que finalement, tu es sur un marché innovant. Parce que là, maintenant, c'est pas innovant. Enfin, maintenant, c'est rentré dans le... Ouais. Tout le monde. D'ailleurs, c'est même une discipline olympique. Enfin, il n'y a même plus de sujet. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'à l'époque, c'était quelque chose de très novateur. Quoi.
Tout à fait.
Et donc, en parallèle de ça, donc, là, tu lances Sport Max, mais tu as aussi ta carrière de sportif de niveau parce que... Tu vas me raconter un peu l'anecdote, parce qu'on sait que tu as été champion du monde de vitesse, je ne me trompe pas. Et tu m'as un peu raconté cette anecdote, je trouve qu'elle est absolument géniale. Sur le syndrome de l'imposteur, un peu sur le fait de dire, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi?
Oui.
Incroyable. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta période, effectivement, sportive de haut niveau, et les projets que tu avais? Alors, on ne va pas aller sur ce projet-là, mais tu avais un projet à un moment donné de courser le ferry et de faire un aller-retour. Mmh. Et puis après, tu avais cette fameuse base de vitesse. Est-ce que tu peux nous parler de cette période vitesse et ce qui a fait un peu exploser d'ailleurs une grande partie de ta volonté de faire du shaping, de faire ce genre de choses, en tout cas la course de haut niveau?
Oui, c'est à la fois compliqué mais très simple. C'est-à-dire que quand on veut faire quelque chose qu'on n'a pas les moyens, il faut construire soi-même. Ça a été le fer de lance de la démarche. C'est-à-dire que je voyais les beaux prototypes de vitesse pour les gens qui faisaient de la vitesse. Ça me paraissait hors budget complet par rapport aux moyens que je pouvais mettre. Donc, je me suis mis rapidement à HEP pour développer mes idées. Par principe, j'ai horreur de copier, donc je suis allé toujours sur des chemins personnels.
La créativité, quoi.
C'est ça, oui.
Oui, c'est toute la sensibilité artistique dont tu me parlais, parce que tu as une vraie sensibilité artistique.
Oui, c'est une sensibilité artistique et c'est aussi une réflexion technique pour résoudre des problèmes. Et j'adore ça.
Ouais.
clairement, je passe mon temps à imaginer ce qui n'existe pas. C'est super intéressant, parfois surprenant. Et dans ce cas-là, bon, la vitesse, la base de vitesse de Waymo, c'était le haut lieu de la vitesse à la voile en général.
Donc ça se situe en Angleterre, pour ceux qui...
Voilà, là où le record du monde de vitesse à la voile, détenu par Crosbo pendant un certain nombre d'années, est resté. C'est passé dans le giron de la planche à voile, avec un Français et Pascal Maca et un Américain, Fred Haywood, qui était aussi, excusez du peu, champion olympique de natation dans l'équipe de Max Pitt. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le bricolage, on est dans le vrai sport de haut niveau.
Ouais.
Des gens qui savent consommer du carrelage pendant des heures et des heures et des jours, respect.
Donc là, c'est ta première expérience du sport de haut niveau. Enfin, c'est là où tu les découvres.
Tout à fait. Et donc
t'es dans le grand bain, tu te retrouves plongé dans le grand bain du sport de haut niveau en te retrouvant sur cette base. Et là, tu décides de t'engager, de dire, tiens, il n'y a pas de raison.
Oui.
Tu avais déjà fait des essais avant.
J'avais fait des essais à Brest, qui avait fait une base de vitesse aussi. Donc, on y allait avec des copains. C'était un peu la cerise sur le gâteau de fin de saison pour se faire plaisir, quoi, tout simplement. Et sans ambition sportive particulière, le but était de participer, de faire le mieux possible, mais sans ambitionner quoi que ce soit. Et dans le cadre de mon défi que j'avais entamé avec la course... avec le ferry entre la France et l'Angleterre, je me suis retrouvé pris au piège d'un engagement avec des sponsors plutôt conséquents, CMA, CGM et TF1. Là, évidemment, on ne parle plus de la même chose, on n'est plus dans l'amateurisme.
Et puis le sponsoring, c'était les grandes heures du début des grands sponsors.
Ah ben oui.
Ce qui existait avant, c'était un peu du bricolage, là on est en plein dans
les
sponsors médiatisés quand même.
Et là, d'un seul coup, médiatisé grâce à des personnes que tous les planchistes ont connues, Arnaud de René, Jenna de René, c'était les sportifs qui passaient chez les grands médias.
Ouais.
C'était les seuls qui étaient capables d'être aux 20h. Et là, d'un seul coup, je me retrouve propulsé là-dedans. Je me dis, on n'est plus là pour plaisanter, je suis pris à mon propre piège.
Oui, t'es plus sur ta planche en 73 à bricoler et essayer de tirer la voile.
Là, on parle de choses sérieuses, donc je suis pris en main par un ami médecin et médecin du sport qui m'a vraiment fait un programme important avec une vraie préparation physique conséquente. Et je me retrouve dans le cadre de ce défi avec le ferry, je me retrouve en septembre après deux ajournements de la part de TF1 pour des raisons d'actualité. C'était quand même leur, leur métier, leur cœur de métier. Je me retrouve à Weymouth, à cette base de vitesse, avec du matériel que j'avais développé moi-même pour résoudre les problèmes qui se posaient. Donc là, aidé par un ami polytechnicien qui permettait de juguler mes délires de développeur empirique, mais disons qu'il mettait des chiffres sur de la réalité, quoi.
Il raisonnait ton innovation, finalement.
Tout à fait, tout à fait. Et donc là, j'ai décidé, au travers d'une réflexion qu'il me fait, il me dit, mais Stan, là, tu ne peux pas aller plus vite que les temps actuels, parce que tes profils d'aileron, quand j'utilisais les profils les plus rapides des profils NACA, à la table des profils hydrodynamiques, il me dit, tu n'iras pas plus vite. Alors évidemment, là je rentre en surmultiplié.
Là, ça t'énerve, là.
Ça va là. Et sur des observations, en particulier du fils du monsieur en question, qui était toujours la tête dans les nuages à regarder ce qui volait, ça me fait penser aux avions. Et donc je lui dis bêtement, bah, oui, mais bon, un avion de chasse, ça va plus vite qu'une planche à voile. Il y a aussi des profils sur les ailes et tout. Donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire
un combo.
Alors elle me regarde un peu désabusée. Puis finalement, en se penchant sur ces données techniques, elle dit, finalement, ton idée, c'est pas bête. En gros, c'est d'aller à Mach 2 en l'air, ça équivaut à la vitesse que tu souhaites atteindre. Ben, je dis, ben, ça y est, on a trouvé une solution à un problème. Donc je dis, cherche un profil d'aile de mirage F1 ou identique, et puis moi je vais fabriquer. Oui. C'est ce qui s'est passé. Donc j'ai fabriqué des ailerons. Au début en contrepliqué maquettiste avec un sandwich carbone fait sous vide dans ma vitrine dans un lit de sable parce que je n'avais pas de machine à faire le vide. Toujours est-il que c'était la réalité. C'était la réalité, donc j'ai cherché à résoudre mes problèmes de gréement parce que, évidemment, la charge d'un gréement traditionnel sur un profil aussi fin... poser des problèmes de cavitation, on n'arrivait pas à démarrer, tout simplement. Et là, en fait, j'avais mis le doigt sur quelque chose qui était la réalité. Et quand je me suis retrouvé en lice à Weymouth avec en particulier Fred Ewood, un Américain qui est champion olympique, et de natation et recordman du monde de vitesse, clairement, il y a tous les États-Unis qui sont derrière.
Et toi, tu te pointes là en
disant... Et là, je me retrouve brutalement propulsé aux avant-postes.
Là, tu prends conscience que tu es en train de faire un truc...
Non, j'ai d'abord...
Tu vas prendre du plaisir, tu disais...
Porter une réclamation contre le jury en disant qu'il y a une erreur.
Ce qui s'est passé, quoi ? T'as porté une réclamation sur quoi ?
Ben, sur les résultats de la première journée de...
Donc tu t'inscris à ce concours de vitesse ?
Tout à fait.
Championnat du monde de vitesse, en l'occurrence.
Exactement. Et
vous avez quoi, une dizaine à concourir ?
Non, on était 50.
Ah, il y a 50, d'accord.
Oui. Et là, je me retrouve en tête des classements. Donc, évidemment, je suis persuadé qu'il y a une erreur parce que je pouvais...
Il y avait le syndrome de l'imposteur. Tu dis non, c'est pas possible.
C'est pas possible. Et puis donc, ils ont retiré les classements, vérification vidéo de tous les passages dans la journée, et force est de constater que c'était toujours les mêmes résultats.
Donc, c'est en quelle année, ça ?
C'était en 86.
86.
Ouais. C'était en 86, et donc, deuxième jour de compétition, je me retrouve de nouveau aux avant-postes. Le troisième jour, il me propose de faire un essai man-and-man,
Côte à côte, quoi, vous êtes
côte à côte, et je suis surpris de la performance de mon matériel. Et en plus, objectivement, je forçais pas vraiment.
Parce qu'il te fallait un sportif, mais il te fallait des conditions physiques particulières. Parce que là, tu me parles d'un champion du monde de natation. Est-ce que toi, tu t'étais préparé?
J'étais préparé, pas pour cette compétition-là, mais pour la traversée de la Manche.
Ouais, donc
et vraiment,
hygiène,
en
sport,
revoyant
cardio.
L'histoire à l'envers, clairement, je marchais sur l'eau.
Ouais,
je me disais tout le temps, mais qu'est-ce qu'ils font? Déjà, je me considérais vieux pour la compétition. Et
en 86, t'as quel âge?
En 86, j'ai 36 ans.
36 ans. Ah oui, il faut...
Oui, j'étais donc réformé. Ceci dit, Fred Haywood a le même âge que moi.
Oui, d'un côté, c'est un sport qui était assez proportionnel à la naissance du sport.
Tout à fait.
On ne pouvait pas avoir des...
Tout à fait. Quoi
qu'on aurait pu avoir des...
Mais il fallait beaucoup de puissance, il fallait donc...
D'expérience.
Toujours est-il que me suis retrouvé dans une situation un petit peu étonnante. À la fin de la semaine, il se trouve que le perdant du jour, c'était Neil Pride, qui était tenant du titre. Mais en même temps, moi,
pour
j'avais...
Pour ceux qui nous écoutent, ça n'est pas qu'une marque, c'est aussi un homme.
Oui, tout à fait. Et en fait, comme on dit vulgairement, gagnant-gagnant, buffet géant, en fait, il perdait avec son porte-drapeau, mais il gagnait avec moi parce que j'avais quand même des Nell Pride, qui n'étaient pas du tout destinés à la vitesse.
Donc il a fait coup double. C'est même encore mieux.
Tout à fait.
D'ailleurs c'est le parallèle, parce que si on en a un peu discuté, c'est cet événement que tu fais par passion, c'est toujours intéressant de voir à quel point... Le fait de faire des choses par passion débouche aussi sur des choses peut-être parfois plus structurées. C'est là où il va y avoir dans ton business aussi un accélérateur de dingue. Parce que j'imagine que là, t'es rentré dans un univers où, que ce soit la planche, le grand public, une élitisation énorme.
La période était juste
magique.
Surnaturelle. Surnaturelle, parce que j'ai... Tout s'est fait en même temps. Il y a eu ces résultats en compétition, parce que là, c'était une épreuve du championnat du monde. Mais derrière, juste la semaine de vitesse de Brest, où il y avait une catégorie 8-10 mètres carrés, qui était restée un petit peu dans l'ombre, parce qu'elle était convoitée par deux marques de voile qui se préparaient particulièrement. Moi, j'arrive dans cette base de vitesse de Brest. Et il se trouve que quand je partais du magasin, j'avais moralement besoin d'être efficace sur l'eau. Tout seul, en compétition et tout, il fallait que je sois performant. Et donc, j'emmenais toujours avec moi du matériel que j'avais développé pour cette speed crossing avec le ferry.
Et puis,
j'ai été champion du monde de vitesse.
Incroyable.
Grâce à ça. Et le matériel qui n'était pas du tout prévu pour la base vitesse, mais qui remplissait un cahier des charges spécifique pour être très performant dans du vent léger avec des grandes voiles. Et là, sur 7 jours de compétition, j'ai gagné 7 fois.
Alors, toi, je vais faire le parallèle parce que c'est incroyable comme cette histoire-là, mais tu as donc ton activité d'indépendant, de chef d'entreprise, tu as ton magasin, et parlellement à ça, tu suis une carrière de haut niveau, que tu t'es toi-même tracé, puisqu'il n'y avait pas d'école, j'imagine, de tout ça. On est vraiment sur quelque chose de très particulier. Qu'est-ce qui, chez Sportmax, c'était aussi peut-être le terreau, ça t'a permis de pouvoir faire plein de choses, ce côté entrepreneurial quand même qui te permettait de le faire, parce que je sais qu'une fois que tu es rentré dans ces cours-là, tu as eu des propositions où tu aurais pu développer Sportmax, faire des franchises et autres, mais finalement, tu t'es nourri dans ta vie entrepreneuriale, parce que tu as rencontré des... Tu parlais de Knife Ride, tu parlais de... D'Oxbow aussi, la fameuse marque Oxbow.
En fait, c'est tout ça est lié, parce que Oxbow, c'est une aventure humaine extraordinaire.
Oui, parce que tu as participé à tout le développement de cette marque.
Complètement. On a été le premier point de vente au monde, Oxbow.
Incroyable.
On a fait les essais d'Oxbow dans le magasin. J'avais fait une petite présentation avec des prototypes de vêtements cousus par les couturières de Pont-Audemer. Alors, on est loin de l'exotisme hawaïen. Mais c'est pourtant la réalité. Et en fait, quand Fabrice et Isabelle, donc les entrepreneurs d'Oxbow, m'ont dit un soir, bah, tiens Stan, tu sais, on voudrait monter une entreprise de surfwear et tout. Bon, à l'époque, le surfwear, on connaissait un petit peu, mais moi, personnellement, je dealais mes shorts Quicksilver à un surfeur pro australien qu'avait une femme qui était mannequin qui venait faire des photos en France. On dealait les trucs, c'était même pas importé en Europe.
Oui, c'était, mais il n'y avait pas de marché, quoi.
Non, il n'y avait pas de marché.
C'était quoi les grandes marques à l'époque? Tu viens de dire Quicksilver?
Bah, Quicksilver, Billabong, Rip Curl.
Ah oui, tout ça. Et c'est des marques qui aujourd'hui existent encore, mais qui sont nées dans ces années-là, quoi.
Tout à fait.
Dans les années 70,
75. Qui sont développées dans ces années-là. Tout à fait.
Du côté d'Hawaï.
C'est Australie.
Australie. Ah, c'est plutôt australien.
Oui, d'accord. Ouais.
Donc finalement, tu te retrouves dans cette aventure-là aussi, donc quand même mélangé dans le côté industrie vestimentaire, parce qu'il y a quand même tout un écosystème autour de ça, plus le côté technique. Donc du coup, qu'est-ce qui fait quand toi, en tant qu'entrepreneur, t'as pas eu le... on l'a vu, t'es quand même, t'as besoin de nouveautés, d'innovation, t'as pas eu envie de faire grossir ce sport maximum en faisant des franchises ou en embauchant du monde ou... J'en sais rien. Est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné ?
Je me suis jamais posé la question.
C'était pas ton objectif.
En fait, je suis pas du tout un homme d'argent.
Ah oui, donc
l'argent, c'est un moyen. C'est pas du tout un but. Enfin, dans mon esprit, c'est pas du tout un but. Le but, c'est de développer de ses sensibilités. Aujourd'hui, je suis en contact quasi journellement avec tous les gens que j'ai connus depuis le début de l'expérience Sport Maximum. Je parle de Fred Bass. Fred Bass a même aidé à ouvrir Sport Maximum.
Fred Bass, c'est ?
Fred Bass, c'était un gamin. Mmh. C'était le fils du procureur de la République du Havre de l'époque, qui était quelqu'un d'exceptionnel. Et Fred, à l'époque, il était champion de France junior de surf.
D'accord.
L'année d'après, il a été champion de France de surf. C'est une personne exceptionnelle qui a été un des associés de Rip Curl Europe par la suite et qui était président de l'association qui regroupe tout le monde du surfwear.
D'accord.
Rip Curl, Quicksilver, Billabong, j'en passe, et des meilleurs. Et vraiment quelqu'un une belle personne.
Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, Sport Maximum, qui était ton activité économique, était finalement le terreau qui t'a permis de pouvoir rencontrer et de venir nourrir, toi, tes envies de création, de relations.
Tout à fait.
Et c'est parce que c'est quand même emblématique. Et on en parlait, tu me disais, mais il y a des tonnes de gens, je suis parfois surpris, au magasin. On pourrait dire que tu es un commerce de proximité, alors que tu es finalement une vitrine européenne, voire mondiale, sur certains produits, où tu me racontais l'anecdote de gens qui rentrent dans le magasin en disant « Est-ce que cette année-là, je viens de lui parler parce que je l'ai rencontré ?»
Il y a 30 ans. Tout à fait.
Parce que toi, tu bougeais beaucoup aussi. C'est vrai que tu allais beaucoup à Hawaï. Tu sourçais aussi beaucoup de...
En fait, après les résultats de Weymouth en particulier, où Neil, le patron de Neil Pride, était là, il m'a fait une proposition en fin de semaine pour rentrer. Donc je suis rentré d'illustre inconnu à un des leaders du team Neil Pride International, qui était l'équivalent de Ferrari ou de...
Ouais, tu étais dans une équipe de course, quoi. Là,
voilà, tout à fait. Parce que ce qui lui avait plu, c'était mon interprétation des choses.
Oui, donc l'innovation, finalement, il était venu puiser chez toi en se disant, il est
tout
parti de
fait.
Rien.
C'est pas le résultat, bien sûr, ça me mettait en lumière. Mais d'avoir imaginé avec des produits existants, du matériel un peu adapté, transformé, qui était en concurrence directe avec leurs investissements lourds de développement.
Et de prendre le risque, toi-même, de te mettre en scène.
Parce que
tu aurais pu le développer pour le compte de tiers. Ce n'était pas le cas, tu étais à la fois le concepteur et l'utilisateur.
Mais je crois, au travers de tout ce que j'ai vécu au niveau sportif, lorsqu'on crée soi-même quelque chose, il y a une force supplémentaire.
Oui, tu as le supplément d'âme. Parce que de toute façon, finalement, c'est intéressant, ça, c'est sur le, on parlait de confiance en soi tout à l'heure, et puis on parlait de rapport à l'échec.
Oui.
Ça ne souffre pas l'échec, parce que ce n'est pas un échec, c'est simplement une étape. Alors, c'est un peu des portes ouvertes, parce que dans ce jour-là, dire, il faut des échecs pour arriver au succès, mais je trouve que dans la logique de création, notamment quand on est dans du produit, puisque dans du service, tu es obligé de recommencer et de recommencer jusqu'à ce que tu trouves.
Oui.
Et ça, c'est peut-être ce qui t'anime, parce que tu me disais que...
Complètement. Complètement.
Et ça augmente la confiance en soi, parce que quand on arrive à mener des petites étapes qui fonctionnent, c'est assez sympa, ça.
Ouais.
Et tu as eu des gens qui ont voulu t'accompagner dans ces moments-là, parce que c'est pas facile à transmettre, ça. C'est très personnel. Faire une planche, tu as une idée des débuts, tu aurais pu l'industrialiser un peu, innover avec d'autres.
Je l'ai industrialisé, mais pas sous mon nom.
Ouais.
Parce que dans le cadre de mes programmes, en fait, j'ai eu un engagement très fort depuis le début avec une marque qui maintenant n'est plus, existe toujours, mais sous un autre nom, avec Fanatic.
Ah oui, c'est vrai qu'il est Fanatic.
Fanatic, Bernard Henné en a été le promoteur, le développeur au niveau national, au niveau européen, au niveau international. Il s'est retrouvé, il avait une vision tellement fantastique des choses. Il avait à la fois une approche business performante, mais en même temps, ce qui est rare, un brin de folie qui permettait d'être novateur.
Écoute, je te propose, Stan, on va faire une petite pause. Est-ce que tu as une musique que tu veux écouter en particulier? Est-ce que tu as une musique qui fait partie de ta vie? Je sais rien, quelque chose pour
penser. I like the wind.
C'est parti, le choix est bon. On se retrouve juste après. We'll be right back. Bon, bonjour à tous, rebonjour à tous. On se retrouve encore avec, avec Stan pour la fin de cette conversation qui était passionnante. Merci Stan pour ces premiers éléments, parce qu'on a, on a vu le Stan entrepreneur, on a vu ton parcours de sportif de haut niveau. C'est absolument passionnant et surtout pour des Havrais qui te connaissent en plus depuis quelques années. J'aimerais bien qu'on, qu'on parle maintenant, et tu as été un acteur fort de cette ville, de par ton implantation, et tu as y rencontré beaucoup, beaucoup de monde. Je voudrais avoir ton avis sur le Havre. Comment toi, tu as vécu ces années au Havre? Comment tu vois le Havre? Comment tu vois son évolution? Et qu'est-ce que tu penses que cette ville, quelles perspectives on pourrait avoir dans, ces, dans cette ville dans les années à venir? C'est quoi le Havre pour Stan, quoi?
Alors, le Havre pour Stan...
Il y aura des contradictions.
Non, c'est... D'abord, je suis foncièrement... Je suis havrais, je suis né au Havre. Et on va dire que je suis toujours content de ce que j'ai.
L'éternel optimiste.
Et donc, le Havre. Mais le Havre d'aujourd'hui...
Il y a une pointe de nostalgie, non ?
Appartient en partie à Antoine Ruffnac.
Ah oui, donc c'est pas nostalgique, c'est un constat que des structurations.
C'est un constat parce qu'il a su trouver l'énergie chez les Havrais pour faire évoluer la ville d'une façon extraordinaire, parce que je suis au contact journellement avec des gens qui sont pas du Havre. Mmh. Et quand j'ai eu la chance d'être élu dans son équipe, c'était un peu notre marotte. Donc moi en particulier, j'aimais bien quand je voyais quelqu'un qui arrivait que je n'avais jamais vu, que ce soit dans mon magasin ou dans d'autres circonstances. C'est « Ah, vous arrivez au Havre ?» Donc ma question piège, c'était « Ah oui, alors vous avez été puni pourquoi ? Ou vous avez été récompensé pourquoi ?» Et je regardais avec insistance la réaction primaire. Elle me dit « Non, on est tellement content d'arriver au Havre. Pourtant, les amis nous ont dit « Ah bon, c'est une catastrophe, qu'est-ce qui vous arrive ?»
C'est incroyable, parce que c'est vrai que c'est quand même, on est tous un peu marqués par ça. Voilà. Parce que dans toutes les interviews que j'ai faites là, voilà, il y a toujours ce côté de dire on n'était pas très présent sur la carte de France, un peu caché, une vision qui est vraie, industrielle portuaire. Mais il y a toujours ce petit côté de s'excuser, de ne pas trop savoir est-ce
Tout
que les gens
fait.
Y sont bien ou pas bien. Enfin, il y a toujours un peu
Et force est de constater que même si les périodes que l'on vit actuellement sont mouvementées en général, pas particulièrement au Havre, sont mouvementées, le Havre est une ville vivante.
Ouais.
Et ça, c'est le plus important. Elle n'est pas bloquée dans son coin en attendant de savoir ce qui lui tombe sur la tête. Et
ça, c'est parce que tu as le recul, parce que c'est vrai, de l'extérieur, on est quand même en bout de ligne, enfin, je veux dire, on est en bord de mer, mais ça, c'est extraordinaire, parce qu'on a le côté nautique. Mais ce côté vie, est-ce que tu penses que c'est l'image, ça l'est de plus en plus. Mais c'est parce que nous, on est à vrai depuis très longtemps, et qu'on connaît ce bouillonnement.
Oui.
Je sais pas comment l'expliquer, enfin, je sais pas comment tu l'expliques.
L'expliquer, je pense qu'il se... Tout évolue au travers de petites choses. Moi, je sais que quand je suis arrivé au conseil municipal, des détails qui paraissent anodins, où Antoine Ruffnac exigeait que l'on se dise bonjour quand on se croise à l'intérieur de la mairie, que ce soit dans l'ascenseur avec un chef de service, un balayeur et tout, c'était obligatoire. C'était vraiment une chose qui...
La force de l'exemple. Donc, tu penses que ça avait aussi...
Le personnel administratif, le personnel de la mairie, après, ça rayonne. Ça rayonne dans un sens ou dans l'autre. Et sortant d'une municipalité qui était différente, avant, c'était une volonté profonde de la part d'Antoine.
Je pense d'ailleurs qu'il a fait l'unanimité. Enfin, on sait bien que ça a été un artisan, d'abord parce que tu le connais depuis longtemps et que tu as eu la chance, tu as beaucoup échangé avec lui, notamment quand tu as été...
Oui.
Mais c'est vrai qu'il a été, quand on regarde ce qui se passe et Édouard Philippe a repris derrière et ce qu'il y avait avant. On a vécu 40 ans de communisme.
Bien sûr.
Qui n'était pas inintéressant d'un point de vue culturel et autre, parce que
c'était un bon maire.
Durmer.
C'était un bon maire. Moi, j'ai discuté avec lui pas mal. Et.
Non, c'est pas tellement politique. Le Havre est très marqué par. Parce qu'on voit bien que les maires successifs, c'est cette empreinte, cette volonté de développer.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal, mais on parle beaucoup du port et de l'industrie, mais il y a eu beaucoup d'innovations en termes de services. Et puis, il s'est passé quand même pas mal de choses sur notre territoire. Donc, je pense qu'effectivement, comme tu le disais, c'est même pas politique.
Non.
C'est une dynamique.
C'est une dynamique. Bon, avec Édouard maintenant, c'est plus technocratique parce que c'est sa formation profonde. C'est quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un de brillant. Après, bon, on partage ses idées, on partage
pas. De toute façon, nous on n'est pas.
C'est pas la politique. C'est pas le but. Mais on parle des hommes.
Oui.
On parle des hommes et Édouard aime beaucoup le Havre, sa façon de l'aborder est différente.
Oui, mais d'un côté, tout évolue, parce que toi, on voit bien que la ville s'est transformée.
Tout à fait.
Il y a eu des phases successives, mais là, on a eu une accélération ces dernières années, le tram, les monuments, enfin, il y a toute une dynamique qui se...
Ce sont des très gros dossiers, effrayants quand on les ouvre et qu'on n'est pas préparé.
Ouais. Aborder des
chantiers comme tout autour de la prison où quand on a fait des enquêtes il y avait des personnes
de la place d'Anton
et tout ça on a fait des enquêtes avec des médecins qui allaient chez les gens des vieillards qui habitaient au quatrième étage et qui allaient aux toilettes au second sur le palier sans ascenseur évidemment.
Et on parle pas de ça de 1890.
Non, on parle ça d'aujourd'hui. Et là, on s'est dit, mais on n'a pas les sous. Tout simplement. Oui. Comment fait-on ?
Non, c'est pour ça que c'est des dossiers à la fois complexes.
C'est des dossiers très complexes.
On réconcilie quand même les gens avec leur environnement. Il faut des moyens et on voit bien que c'est compliqué.
C'est très compliqué. Et là, ce sont des gens qui savent monter les dossiers. Et qui savent s'entourer de compétences pour faire avancer les gros chantiers.
On le voit d'ailleurs d'un point de vue esthétique. Si toi, c'est quoi pour toi l'emblème? On parle souvent des monuments, je parle souvent d'architecture, on voit qu'on retombe toujours sur les cadres. Mais qu'est-ce qui, toi, le porte-étendard du Havre, si tu devais le décrire par un monument, auquel tu es peut-être le plus attaché, ou par souvenir, ou par esthétisme, ou par...
Alors déjà, il y a Saint-Joseph.
Oui, ça, c'est vraiment...
C'est notre amère. Et puis après, pour avoir vécu un moment particulièrement épique derrière un bateau en train de faire du wakeboard un soir entre le pont de Normandie et Port de Mille, j'avais l'impression d'être dans une boîte de nuit géante. L'éclairage du pont de Normandie avec ses dégradés de bleu et Port de Mille en pleine effervescence puisqu'ils étaient en train de décharger deux porte-containers.
Là, il y a une... Et toi sur l'eau en train de...
Voilà, de la musique sur le bateau parce que c'est une personne qui vendait du matériel pour sonoriser, entre autres, les bateaux. C'était quelque chose de tout à fait exceptionnel, quoi. Tout à fait exceptionnel. Là, c'est une scène incroyable. Il faudra qu'on fasse une petite vidéo parce que franchement, ça vaut le coup. Hein.
Ouais. Non, mais c'est bien parce qu'on ne l'apporte pas comme ça. Mais c'est vrai que le Havre fait partie de l'estuaire. Alors, et c'est très empreint du port. Le port, c'est quand même cette arme incroyable.
Oh, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est quand même la porte d'entrée de l'Europe. Hein. Ouais. Même si on n'est pas le plus grand port, mais on est quand même aux avant-postes.
Il y a plein de choses, effectivement. On voit bien qu'il y a des dossiers qui sont en train de monter, mais dans les années à venir, ça va être... On va conclure notre interview. Déjà, je tiens à te remercier parce que je trouve ça d'abord très sympa pour moi, parce qu'on a une histoire commune, on connaissait quand même pas mal de gens, on a beaucoup de gens en commun. Et puis, je suis très honoré que tu aies pu nous raconter un peu ton histoire. Pour terminer les interviews... Il y a deux choses. D'abord, je voudrais savoir si tu as quelque chose à rajouter à titre personnel, une petite conclusion ou quelque chose qui te tient à cœur.
Qui me tient à cœur, oui. Il y a vraiment une chose qui me tient à cœur. C'est J'espère que je reviendrai, parce que j'avais tellement de choses à raconter, en particulier sur le développement de la glisse au Havre, sur le début des radios libres avec Radio Porte-Océane, ouais. Où j'animais moi-même une émission très sérieuse qui s'appelait...
C'est vrai, c'est RPO ?
Oui.
Ah, t'as été sur RPO ?
Ah ben évidemment.
Toi, je fais bien de te poser la question, c'est ça une conversation,
tout
ça rebondit.
Tout à fait, et j'animais une émission très 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 sérieuse qui s'appelait « Les cocotiers poussent-ils à la lèvre ?»
Donc on imagine que ça devait être d'un très très haut niveau.
C'était passionnant, on était entouré de personnes qui partageaient notre passion, qui avançaient, et il y a tellement de choses à raconter, quoi. C'est fantastique.
C'est pour ça que la radio, c'est assez... Alors toi, nous on est un peu le pendant des radios libres des années 80, maintenant ça, ouais, se fait sur le web, on fait ça avec notre temps. Mais oui, on aura l'occasion de se revoir, parce que effectivement, il y en a forcément d'autres sujets. Là, on en est encore à lire des podcasts, mais bientôt, et on le souhaite, on aura le plaisir de pouvoir faire des émissions en direct, donc j'espère que tu nous feras le plaisir de venir te joindre à nous. En tout cas, je veux te remercier. Un grand merci, Stan, pour ce moment passé ensemble. Une dernière question. Quel genre de girafe tu es ?
Alors, quelle girafe ? Je ne me suis pas encore posé la question, mais pas facile. Une girafe sur une planche de surf ou sur une planche de wing ?
Oui, il va te falloir un sacré mât, alors. On va dire que tu seras notre girafe surfeuse.
Entendu.
Wing surfeuse.
Très bien.
Bon, en tout cas, un grand merci, Stan. Et puis, écoutez, vous pouvez retrouver ce podcast sur radiogirafenormandie.fr. Vous pouvez le télécharger. N'hésitez pas, parlez-en. À bientôt, Stan.
À bientôt.
Merci. Ciao.